Picasso.
Il fromage au milieu, patate.
Attends, va, va.
Le fromage au milieu, que ça coule pas bon, très bon.
Oui, mais je peux pas là, parce qu'il y a de la
pâte. Ah.
Tu as compris la...
Paul le Suisse, non, non, je m'appelle Paul Pringold, P-R-I-N-C-H-O-L-D, Gold. Voilà, Paul Pringold, je suis Suisse. Je pêche plus de 40 ans ici dans le calanque de Montjou. Il n'y a plus du tout du poisson là-bas, non? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et puis je pêchais du poisson, ça m'était rouge, orange, comme ça. Plein de trucs. Plein de bauxite. Le rejet de bauxite, d'aluminium. C'est dommage, j'ai plus de film. Les Allemands, ils ont fait des films là-bas. Avec le sous-marin, ça m'a dit à 350 mètres. Il y avait des avalanches comme dans les Alpes. Des avalanches, le boue rouge qui coulait, tu vois. Ça fait du nuage. Malheureusement, c'était en noir et blanc, mais c'était affreux à voir. Hein. C'est comme des milliers de tonnes à jeter. Des millions de tonnes, des millions. Alors, il n'y a vraiment plus un poisson. Plus, c'est tous partis.
Poison rouge, un documentaire de Violette Artaud.
Les calanques du côté de Marseille et de Cassis font rêver par leur eau cristalline.
Les calanques de Marseille, au cœur d'un parc naturel,
n'a qu'une envie, piquer une tête, mais une eau claire n'est pas une eau propre.
Vont continuer à abriter des rejets industriels. Le préfet de la région a validé la demande de l'usine Alteo.
Dans cette usine, on produit de l'alumine pour les écrans LCD. Une activité polluante. Pendant 50 ans, cette industrie a rejeté des boues rouges toxiques dans la Méditerranée.
L'usine de traitement de minerais de bauxite Alteo, qui produit des boues rouges à Gardanne, a en effet reçu l'autorisation pour 6 années encore de rejeter en mer une partie de ses déchets.
Ouais, voilà, parce que lui, il de mon matin, il sera à la mer, mais lui, il travaille aux sardines très très tôt le matin, et après, il décharge le tank, il décharge son bordel et tout, là. Ben, si je l'ai, je lui dirai.
Je me souviens quand j'étais tout petit, j'avais 10 ans, ça m'avait marqué, je voyais écrit non au boue rouge sur les murs. C'était les premiers tags qu'on voyait. J'avais un petit peu la trame pêcheur et la trame protecteur de la mer, même si j'étais un braconnier à l'époque, parce que je revendique mes antériorités de chasseur sous-marin qui vendait le poisson. Mais bon, j'avais 15-20 ans. Et puis après, quand j'ai décidé de devenir pêcheur à la traditionnelle, j'ai commencé à aller poser des lignes dans les grandes profondeurs. Et puis, dans les grandes profondeurs, on s'est rendu compte que dès qu'on arrivait à 300, 400 mètres, là, on remontait nos engins tout rouges et on remontait même les poissons qui se prenaient tout rouges. Et là, j'avais envie de hurler, quoi.
Le reste de la nourriture des poissons.
Alors ici, on est dans ma zone de travail, dans ma structure, on va dire, de stabulation de poissons. J'ai la chance de pouvoir être installé en bord de mer. J'ai une pompe qui récupère de l'eau dans la mer, qui irrigue les bacs. Tu as vu, il nous crache l'eau dessus, le poulpe, là. Là, il y a un poisson qui est magnifique. Ça s'appelle un Dactylopterus volitans.
Je m'appelle Gérard Carodano, j'ai 60 ans. Je suis passionné de mer. Je suis devenu pêcheur professionnel il y a une quarantaine d'années. Ma spécialité, c'est les poissons pour aquarium. Mais avant tout, je suis un représentant de la petite pêche artisanale.
Alors les répastenagues, ça c'est des violacéas, c'est la répastenague violette. C'est carrément des animaux de compagnie, tu vois. Dès qu'elles nous voient, elles montent à la surface, elles se laissent caresser, elles font la différence entre le doigt et la sardine.
Moi, j'ai vu réduire comme peau de chagrin un territoire de pêche qui était notre plus belle zone de pêche. Parce que là où ils rejettent les boues, c'est le canyon de Cassidane. Un canyon, que ce soit à terre ou que ce soit en mer, c'est des falaises. Là, c'est des falaises sous-marines. C'est pour ça que ça leur a donné l'idée d'aller jeter ça là-dedans, parce qu'ils se sont dit, oulala, là, il y a une belle poubelle pour nous. Aujourd'hui, la boue, elle est à 122 mètres de fond. Le canyon, il est plein à bloc. Alors là, c'est brûlé, c'est lunaire, quoi. C'est lunaire, c'est brûlé, c'est facile à comprendre que les poissons, ils aient déserté la zone.
Conscient de la valeur économique, sociale et culturelle de la mer Méditerranée et de son importance pour la santé, consciente qu'il leur incombe de préserver et de développer durablement ce patrimoine commun dans l'intérêt des générations présentes et futures, reconnaissant que la pollution fait peser une menace Sur le milieu marin, les parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et dans toute la mesure du possible, éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée. En foi de quoi, les sous-signés, du moins autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention. Faite à Barcelone le 16 février 1976, en un seul exemplaire, en langue française, anglaise, arabe et espagnole.
Il y a une convention qui est mise en place pour protéger la Méditerranée qui s'appelle la Convention de Barcelone et la France ne la respecte pas puisqu'elle a demandé une dérogation pour rejeter des déchets. Ah, les calanques, on les aime hein, tout court. On les aime bien évidemment non pollués, mais c'est un peu tard pour ça. Donc on va essayer de faire en sorte qu'elles soient dépolluées dans la mesure du possible et on va surtout faire en sorte qu'elles ne soient pas plus polluées.
Jusqu'à présent, Ségolène Royal a toujours dit non aux effluents liquides et solides de la compagnie Alteo. Et puis dernièrement, il y a eu Valls qui est allé contre. Il est inadmissible de continuer à polluer avec des effluents liquides.
Je m'appelle Olivier Dubuquois et je suis géographe de formation. Et sur ce dossier sur les boues rouges, en fait, je suis lanceur d'alerte. On mène des analyses pour prouver que le produit est par exemple toxique. Il y a des actions qui sont sur le terrain de mobilisation comme celle d'aujourd'hui. Il y a des actions qui sont politiques, on essaie de trouver des alliés justement politiques, des élus qui peuvent nous représenter et faire passer le message. Il y a des actions médiatiques auprès de la presse où on essaye aussi d'être entendu et de faire basculer l'opinion publique en notre faveur, comme aujourd'hui. Et progressivement, normalement, on arrive à ce à quoi on arrive aujourd'hui, c'est-à-dire à une véritable mobilisation citoyenne et la lutte devient totalement juste et la pratique de l'industriel et cette pollution devient complètement injuste. Donc on est dans le vrai. Et normalement, c'est là où ça bascule.
Conclusion sommaire du rapport. Le rejet des boues rouges semble avoir deux conséquences principales et distinctes sur l'environnement. Premièrement, le rejet massivement déposé dans le lit du canyon de Cassidaigne empêche toute vie sur le fond par effet essentiellement mécanique. Deuxièmement, les fractions les plus fines, qui sont aussi les plus mobiles des boues rouges, ont été reconnues capables d'effets toxiques indubitables sur certaines espèces d'oursins et une espèce d'huître. Yves Lancelot, directeur de recherche au CNRS, 25 janvier 1996. Pardon.
Il y a eu beaucoup de personnes qui sont mobilisées contre. La seule particularité que j'ai eue sur ce dossier, c'est que j'ai remobilisé un moment où la lutte était complètement endormie. Il n'y avait plus personne, quasiment, sauf Yves Lancelot, qui le faisait, mais qui le faisait un peu en solitaire, on va dire. Et à partir de cette rencontre avec Yves Lancelot, on a travaillé ensemble et on a commencé à fédérer, jusqu'à très récemment, où on a réussi à fédérer notre lutte avec les pêcheurs. Et là, c'était très compliqué, parce que les pêcheurs, il y a un gros manque à gagner. Vous imaginez que la plupart du temps, ils n'étaient pas très favorables à ce qu'on fasse savoir que leurs poissons étaient pollués et toxiques. Donc voilà, très récemment, les pêcheurs ont basculé avec nous et je pense que ça a été un virage dans cette lutte, justement.
Si je vis une autre vie, je voudrais être pêcheur, moi. Je n'ai pas envie de faire autre chose. Ce matin, j'étais là avec mon petit-fils au large. On a pêché qu'un espadon, mais on s'est régalé, quoi. Je me dis que le fond de la mer, ces grandes gorgones, ces algues, ces invertébrés, tout ce qu'il y a dans le fond de la mer, j'ai pas envie qu'il y ait des effluents sournois qui s'éparpillent dans l'ensemble du bassin méditerranéen, parce que c'est dessous la mer, parce que ça sort à 200 mètres ou à 300 mètres de profondeur. Alors là, on ne dit rien. Si on pouvait enlever la mer et voir ce qui se passe au fond, mais il y a une levée de bouclier, il dure pas un quart d'heure leur autorisation. Ils sont tout faux sur toute la ligne. Leur seul argument, c'est le chantage à l'emploi.
La nuit, elle surgit sous le feu des éclairages, énigmatique, telle une ville dans la ville. La lente évolution des fumées dans l'obscurité révèle un rythme incessant. L'histoire de ce véritable temple de l'alumine, forgé par le temps et par les hommes, témoigne de sa place dans le paysage local. Elle souligne son rôle pionnier dans l'aventure industrielle nationale et internationale. À l'heure de ses 120 ans, l'ancienne usine Pechiney, devenue aujourd'hui Alteo, demeure une des figures de proue de l'économie gardanaise. Le succès de cette longévité est indissociable de l'histoire des hommes qui la font vivre. De génération en génération, nuit et jour, des hommes et des femmes travaillent à l'usine et la vie se cale à la cadence des machines.
Alors, moi, je travaillais au groupe énergétique. Donc, à l'époque, on appelait ça la chaufferie. On produisait la vapeur pour faire marcher l'usine. Voilà, je m'appelle Gérard. Et maintenant, je suis en retraite. Et très heureux d'être à la retraite, bon, du fait que j'ai passé 40 ans, pour ainsi dire, de ma vie dans l'usine. On a déversé pendant des décennies dans la fosse de Cassidaigne, que jusqu'à présent, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais eu de problème, de boue, tout ça. Et que je ne comprends pas pourquoi on fait tout ce problème au niveau des bourrouges. Voilà, je ne comprends pas.
Communiqué de presse. Suite aux différents commentaires, Alteo souhaite apporter les précisions suivantes. L'autorisation accordée par le préfet ne prévoit nullement la poursuite des rejets de bourrouges en mer. C'est exactement le contraire. Il n'y a plus de rejets de bourrouges. Ce nouvel arrêté permet donc de tourner définitivement la page des bourrouges, tout en maintenant l'activité du site. Maintenant, l'usine de Gardanne se projette vers l'avenir et va poursuivre ses efforts dans une démarche ouverte pour améliorer en continu ses performances environnementales.
Maintenant, du fait qu'on ne rejette plus les boues à la mer, bon, on va rejeter ce liquide. Ce liquide, bon, soi-disant, il y a ci et là, mais c'est tellement infime que ça, bon, ça ne risque rien. J'avais visionné des caméras de fond de la fosse, tout ça. Il y avait des poissons, il y avait des congres, tout ça. Ils étaient au bord du tuyau, ils se tenaient au chaud. Il y avait même des rascasses, tout ça. Et on n'a jamais vu un poisson remonter orange ou quoi. Ça, c'est toute une histoire d'écologistes. S'ils veulent faire fermer l'usine, ils ont qu'à le dire, voilà, on veut fermer l'usine et c'est terminé. Encore ajouter du monde, 700 personnes au chômage, ils ont qu'à le dire de suite, c'est vite fait.
Par ailleurs, ce dossier a donné lieu à une procédure de consultation publique qui a permis à toutes les parties prenantes de largement s'exprimer. Les instances qui se sont prononcées sur le dossier ont toutes émis un avis favorable. L'autorité environnementale, le conseil d'administration du parc national des Calanques, la commission d'enquête publique et le comité départemental de l'environnement et des risques.
Et le parc était le seul organisme qui avait un avis conforme à donner. C'est-à-dire que l'avis du parc était obligatoirement suivi par le gouvernement. S'il donnait un avis négatif, c'était évidemment l'arrêt de Alteo définitivement. Nous n'avons pas pris parti, le conseil d'administration a débattu, 30 voix pour, 16 voix contre, et avec des réserves, avec des conditions sine qua non. Il y a un délai de 6 ans qui est devenu donc impératif à la demande du gouvernement, qui était de dire, voilà, il faut que Alteo arrive dans les conditions de rejet aux normes européennes de pollution.
Les eurodéputés, j'ai vu qu'il y avait José Bové. On n'arrête pas de se battre.
Il n'y a rien dans le dossier justement qui fixe un délai à 6 ans. Donc dire 6 ans, c'est une invention pure et simple. Alors on va faire un recours devant le Parlement européen, la commission des pétitions, et on va saisir la Commission européenne. Et avec ça, on va obliger la France à répondre pourquoi est-ce qu'on accepte qu'on puisse polluer au-delà du droit européen. José Bové, député européen et combattant contre Alteo. Quand je me baigne, ça me fait un peu peur.
La deuxième chose, c'est la constitution d'un comité de suivi et de surveillance indépendant, où le parc, évidemment, sera présent et même leader, pour mettre la pression sur Alteo, bien sûr, pour qu'il fasse le nécessaire sur l'industriel, mais aussi sur l'État, parce que l'État a des responsabilités en tant que contrôleur, ce qu'il n'a pas appliqué depuis 50 ans. Moi, par principe, je fais confiance à tout le monde, mais je commence à faire confiance à moi-même et au parc national. Donc nous serons là comme surveillants, intransigeants, exigeants.
Hermès, voilà, ça doit dater de 2014, il me semble. Voilà, enregistrement des échantillons, rapport, ouais, ça doit être celui-là. Alors il s'agissait d'effectuer le dosage des métaux lourds et d'effectuer un dépistage systématique des contaminants organiques éventuellement présents dans un échantillon de boue de rejet. On est ici au rez-de-chaussée. Il y a un laboratoire de chimie ici où je reçois les échantillons. Ça, c'est des échantillons qui viennent d'Égypte. Voilà, ce sont des petites pompes. Vous entendez ? Alors, je m'appelle Bernard Taillé. Je suis docteur en sciences en chimie organique. Je suis gérant d'un laboratoire indépendant que j'ai créé en 91 et je me suis mêlé de choses qui ne me regardent pas, c'est-à-dire de la composition des boues rouges. On a effectué ces dosages. On constate que la teneur en chrome dans ces rejets solides est 10 fois plus importante que celle à laquelle on peut s'attendre d'un sol non contaminé. Il y a des dangers pour le titane, et le vanadium en particulier, c'est une saleté. Le vanadium, ça, il y en avait beaucoup dans la cargaison de l'Erika, et ça a été une des raisons de la mortalité extrêmement élevée des oiseaux mazoutés.
C'est pas moi qu'il faut regarder, c'est là ici. Regarde, il faut suivre le chemin, il y a des traces là, regarde, elles sont là les traces. Allez, vas-y, là, vois les petits traits, là voilà, vers la gauche.
Imaginez la situation, on a une usine qui se trouve à 30-40 km à vol d'oiseau de la mer, qui est un terrain privé, où personne n'a le droit de rentrer sauf le personnel autorisé. Les seules personnes sur lesquelles les citoyens peuvent compter pour effectuer des contrôles, c'est un organisme qui s'appelle la DREAL. Ça fait 50 ans qu'ils ne font pas les contrôles qu'ils sont supposés faire, puisqu'on leur a dit de ne pas les faire. Ils sont dociles, ils sont serviles, ils appliquent, c'est des fonctionnaires, ils sortent des mêmes écoles, et ils sont sous la coupe d'une espèce de caste qui existe en France, qui est constituée par ce qu'on appelle les ingénieurs des mines, qui ne payent pas leurs études, l'État leur paye leurs études, sont quand même tenus de servir l'État pendant 7 ans. Au bout de ces 7 ans, survient un événement que ces chenapans appellent le pantouflage. Cet événement, c'est le processus qui consiste à passer du statut de fonctionnaire au statut de privé. Et donc, vous voyez, ce petit monde, très secret, très fermé, ce sont les gens qui vont inspecter les usines. Alors, ils le font docilement, parce qu'ils savent que 7 ans après, ils vont devoir rentrer chez Alteo ou chez Total, vous voyez. Donc, les intérêts de l'environnement, qui nous appartient à tous, sont défendus par des ingénieurs des mines. Pour qui la chose essentielle, c'est de creuser pour sortir le plus possible d'or et d'argent, d'aluminium, voilà. Après, si les oiseaux crèvent, rien à... Hein, bon.
Je chanterai, si Dieu veut, un enfant de Cassis, simple pêcheur d'anchois, âme de mon pays, par la grandeur des souvenirs. Toi qui nous sauves l'espérance, toi qui, dans la jeunesse, es plus chaud et plus beau, toi qui, inspirant les doux troubadours, tel que le mistral fait ensuite gronder la voix de Mirabeau. Car la houle des siècles, et leurs tempêtes et leurs horreurs, en vain mêlent les peuples, effacent les frontières. La terre maternelle, la nature, nourrit toujours ses fils du même lait. Âme éternellement renaissante, âme joyeuse et fière et vive, âme des calanques pleines de soleil, de la patrie âme pieuse, je t'appelle, incarne-toi dans mes vers provençaux.
C'était Poison Rouge, un documentaire de Violette Artaud, mixage Jean-Christophe Galen, Centre universitaire d'enseignement du journalisme.